Grand reportage.
C'était l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga. Le financier présumé du génocide des Tutsis du Rwanda a été arrêté le 16 mai dernier près de Paris au terme de plus de 20 ans de cavale. 20 ans de fuite durant lesquels il aura changé d'identité des dizaines de fois et trouvé refuge dans plusieurs pays entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, c'est en France que la justice doit se prononcer sur son transfèrement au mécanisme pour les tribunaux internationaux qui a pris le relais du TPIR. Il devrait ensuite être jugé à Arusha en Tanzanie. Mais au Rwanda, les vestiges de la fortune de l'ancien homme d'affaires sont toujours visibles et les plaies des victimes du génocide toujours vives. Rwanda, sur les traces de Félicien Kabuga, c'est un grand reportage de Laure Broulard.
Quand on a construit cette maison, c'était la plus grande maison de la ville, la maison de Kabuga. C'était une chose nouvelle ici dans la ville de Kigali. On disait, à Mouima, il y a une grande maison de Kabuga qui est en train de se construire.
5 étages de béton et des balcons qui courent sur des dizaines de mètres. Gilbert Massengo pointe du doigt un immeuble imposant sur la grande route qui relie le centre-ville de Kigali au quartier populaire de Nyabugogo. Aujourd'hui, on l'appelle encore l'immeuble de Kabuga. Actuellement, c'est le siège de la police chargée de la sécurité routière. Mais dans les années 90, c'était la première galerie marchande du Rwanda. Le frère de Gilbert a participé à la construction du bâtiment financé par Félicien Kabuga.
Moi, personnellement, je n'ai pas vu Kabuga. On disait qu'il y a un riche qui s'appelait Kabuga. Je voyais ces camions, il avait plus de 100 camions remorques. Si la porte du chauffeur était écrit établissement Kabuga Félicien, commerçant général, tout ça. On voyait ces camions-là, mais personnellement, je ne l'avais pas vu.
Mais pour Gilbert, rescapé du génocide, le nom de Félicien Kabuga ravive aujourd'hui des souvenirs douloureux. Il assure qu'entre avril et juillet 1994, les Inhera Amwe, les milices du MRND, le parti du président Juvénal Habyarimana, ont érigé des barrages routiers ici, juste devant l'immeuble de l'homme d'affaires.
Ici, vous voyez, ici, il y avait une barrière dans cette route. Et vous voyez là, derrière le grand immeuble, se trouvent des petites maisons là. Ce sont les petites maisons qui abritaient ces Inhera Amwe qui faisait cette barrière ici. On le sait, on l'a dit, on le répète, le barrière de chez Kabuga était une des grandes barrières qui a tué plusieurs Tutsis. Vous savez, ici c'est la route principale. Tout le monde qui se réfugiait dans d'autres préfectures devrait passer par cette barrière. Si tu étais Tutsi, tu étais automatiquement tué.
La maison de Claudette Nilibambe se trouve quelques dizaines de mètres plus bas, dans l'ombre de la grande bâtisse. Dans la petite cour, ses filles cuisinent le repas de midi sur des charbons de bois. Elle s'assoit dans un salon exigu au mur rose, sous un poster imposant de Jésus-Christ. Au fur et à mesure de son récit, sa voix se brise.
Dans cet immeuble, il y avait des membres de la MINUAR, mais il y avait aussi une permanence du MRND, le parti du président de l'époque, Juvénal Habyarimana. Il y avait des grands partisans du MRND, comme Mathieu Ngirumpatse, qui venait ici. Et quand il y avait des réunions du MRND, les Inhera Amwe du quartier, ils étaient là, dans la rue, et ils appelaient mes frères. Ils leur disaient de venir à la réunion et que sinon ils allaient les tuer, ce genre de choses. Et c'était là qu'ils recevaient à manger, à boire, mais aussi des costumes en panne. C'est aussi là qu'ils recevaient les armes. Vous voyez, je vis un peu plus bas. Mais avant, je les voyais comme je vous vois. Maintenant, je vais parler du génocide. Le 6 avril, après la chute de l'avion, tout était normal. Mais le matin du 7 avril, les Inhera Amwe sont venus ici, au bureau du MRND, là où il y avait la nourriture, là où ils s'entraînaient, là où ils recevaient les armes. Et le 7, ils ont commencé à tuer les gens. Et pendant ce temps-là, Kabuga était là. C'est lui qui fournissait tout.
Claudette a perdu presque toute sa famille en 1994 et la nouvelle de l'arrestation de Félicien Kabuga, inculpé de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda, lui a fait l'effet d'une délivrance.
Ça m'a réjoui parce qu'il va devoir répondre de ses actes et que nos morts vont obtenir justice. Et je pourrais lui demander pourquoi il a fait ça. Parce que ça ne s'est pas fait par hasard, c'est quelque chose qui avait été planifié. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas, car il avait acheté des machettes et elles étaient dans sa maison. Nous voulons la justice. La justice pourra nous aider. Mais seul mon cœur sera soulagé parce que personne ne peut nous ramener nos morts. Et nous avons besoin de le voir, penser à ce qu'il a fait et de voir s'il se reproche quelque chose. Et même peut-être nous demander pardon comme d'autres l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils ne peuvent pas nous ramener nos morts. À Kigali, les traces de Félicien Kabuga sont encore visibles. Dans le quartier de Gikondo, un de ses anciens entrepôts a été transformé dans ce que les autorités appellent un centre de transit pour les enfants des rues et les vendeurs à la sauvette. Mais il y a 26 ans, c'est là qu'auraient été stockées plusieurs tonnes de machettes, selon le voisinage. Dans le centre-ville, les studios vides de la radio-télévision libre des Mille Collines sont alloués. Au rez-de-chaussée, un magasin de vêtements a ouvert ses portes. Mais sur le toit, on aperçoit encore l'antenne de cette station, principal outil de propagande du projet génocidaire. Chaque jour, pendant les 3 mois qu'ont duré les massacres, des animateurs ont appelé sur ces ondes à l'extermination de la minorité Tutsi du pays. Selon l'acte d'accusation du TPIR, Félicien Kabuga en était le président. À quelques pas de là, dans le bureau du Forum du Conseil des Anciens, une institution gouvernementale, Boniface Rutshagu fouille ses tiroirs. Véritable vétéran de la politique rwandaise, il était député dans le gouvernement de Juvenal Habyarimana en 1993 et il était présent lors de la création de la radio-télévision libre des Mille Collines, la RTLM.
C'est le statut de la première réunion de la fondation de la radio de la RTLM. En ce moment, la première réunion, il y avait 50 personnes qui ont signé le document de la création de la RTLM. Voilà. Kabuga, numéro 4, c'est Kabuga Félicien.
Mais là, il y a votre nom aussi.
Il y a mon nom. Numéro 43. Une action, une seule action dans cette société égalait à 5 000 francs. Moi, j'ai fait une action de 5 000. Kabuga a fait, il a donné 500 000.
Boniface Rutshagu assure qu'il n'a assisté qu'à cette première réunion. Il s'empresse d'ailleurs de montrer toute une série de documents prouvant qu'il avait plaidé pour un arrêt des massacres pendant le génocide. Si d'autres actionnaires de la RTLM, comme Ferdinand Naïmana, ont été condamnés par la justice internationale, Boniface Rutshagu a continué sa carrière politique. En 2006, il sera même nommé gouverneur de la toute nouvelle province du Nord.
Je connaissais M. Kabuga depuis les années 1976. Je ne l'avais pas encore vu. J'étais sous-préfet d'une sous-préfecture qui touchait sur la frontière rwando-ougandaise. Kabuga n'a pas commencé avec beaucoup d'argent. Dans le régime de la Première République, il faisait le commerce avec les gens de l'Ouganda, les Pakistanais de l'Ouganda. En 1976, l'Ouganda commence à avoir des problèmes d'écoulement de café. Les Pakistanais achetaient aussi le café de l'Ouganda. Ils envoyaient M. Kabuga, il prenait le café, il vendait, il restait avec le grand bénéfice, il donnait le prix d'achat. C'est ainsi que Kabuga est devenu l'homme le plus riche de ce pays. Le plus riche, ça c'est sa première vie. Dans ces périodes, il n'approchait pas le régime. Il avait une vie exceptionnellement simple et appréciée de tout le monde. Alors il entame une deuxième vie par sa fille qui est fiancée par la fille de l'ex-président Habyarimana. Le fils de Habyarimana était le gendre de Kabuga. Et depuis lors, il est entré dans la haute sphère.
La haute sphère, l'entourage du président Juvénal Habyarimana. Deux des filles de Félicien Kabuga seront mariées à des fils du chef de l'État. Une autre de ses filles épouse Eugène Mbarushimana, le secrétaire général des Inhera Amwe, les milices du parti présidentiel en première ligne dans les massacres. De par ses liens privilégiés, Félicien Kabuga est considéré comme faisant partie de l'Akazu, la petite maison en Kinyarwanda, le cercle des extrémistes Hutus, les durs de ce régime qui stigmatise les Tutsis, rassemblés autour du président et de sa femme, Agathe Kanziga. Ce sont eux qui sont accusés d'avoir pensé, organisé et financé le génocide. Félicien Kabuga est originaire du nord du Rwanda, comme de nombreux membres influents du régime. Pour arriver dans son village, situé dans le district de Gicumbi, il faut rouler longtemps sur une piste au milieu des champs de thé. Finalement, au détour d'un virage, quelques maisons à flanc de colline, un abri pour trier les feuilles de l'or vert et un immeuble inachevé, véritable intrus dans ce décor. C'est un des frères de Félicien Kabuga qui a entamé la construction, abandonnée après le génocide. Juste à côté, l'ancienne maison de l'homme d'affaires est connue de tous.
Tout le monde la connaît. Tu vois cette maison au toit rouge là, derrière. C'est là où il habitait. Et ses plantations de thé, il les a achetées à un homme blanc. Tu vois ce champ ? Ça commence là, continue par là-bas, 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 jusque là d'où vous venez.
Appuyé sur son bâton, ce vieil homme ne veut pas donner son nom. Chapeau sur la tête et sandales usées, il transporte un petit panier de bananes qu'il va vendre aux alentours. Il se souvient très bien de Félicien Kabuga.
Vous me demandez si je le connais ? Bien sûr que je le connais. Il faisait du commerce dans le village de Rushaki, là-bas. Il a commencé par du petit commerce. Il faisait des paniers, les utilisait pour acheter du café, et il allait les vendre. Et aussi, il amenait des marchandises de l'Ouganda. Puis quand il a eu beaucoup d'argent, il a commencé à construire des maisons à Rushaki. Après Rushaki, il est parti à Kigali. Le reste, j'en sais rien. Mais quand il était ici, il organisait des fêtes et il invitait tout le monde. Moi-même, j'y allais, je buvais avec les autres et puis je m'en allais. Et je ne pourrais jamais comparer ma maison à celle de Kabuga. Sa maison était en tôle alors que la mienne était en terre. Ce n'est pas comparable. Lors de ces fêtes, il y avait de la bière, de sorgho et aussi des bières industrielles. Nous, au bout d'un moment, on partait, mais les riches comme lui restaient, tandis que les pauvres comme moi retournaient à leurs travaux journaliers.
Dans le petit village, deux pierres tombales surplombées de grandes croix, la famille Kabuga. Selon les habitants, une des sœurs du financier présumé du génocide habite encore ici. Mais Esther Muhandaza est difficile à trouver. Accroupie au milieu de son champ de haricots, elle ne répond pas aux appels répétés. Il faudra de longues tractations pour la convaincre de parler au micro.
Je te dis que c'est mon frère aîné. Ces tombes, c'est pour les membres de notre famille. Tu veux leur nom ? Non, ne me demande pas ça. Cette maison appartenait à Nsanzu Muhire. Et l'autre, c'était celle de Kabuga. Mais elle a été vendue. Mais je ne sais pas par qui. Tu comprends ? Et celle-là, c'était sa plantation de thé. Elle a aussi été vendue. Je ne sais pas par qui et à qui. Vraiment, je ne sais pas qui l'a acheté.
Difficile d'estimer la fortune de Félicien Kabuga, tout comme de retracer l'histoire de ses propriétés. Elles ont été saisies par le gouvernement rwandais après le génocide, mais en 2011, le procureur général gèle une nouvelle fois ses biens et ses comptes bancaires. Selon la presse locale, des proches de l'ancien homme d'affaires auraient en effet tenté de récupérer une partie de son patrimoine. Reconstituer le parcours de Félicien Kabouga comme celui des autres fugitifs accusés de génocide, c'est le travail du procureur John Bosco Siboyinhore. Il fait visiter ses bureaux à Kigali.
Ici, dans ces trois maisons, ce sont les bureaux de la Génocide Fugitive Tracking Unit, ou GFTU. Nous avons pour mandat de retrouver toutes les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide et qui sont en fuite dans le monde entier. L'unité a été créée en 2007.
As you can see from here, these are the posters depicting the wanted fugitives.
Là au mur, vous pouvez voir les posters indiquant les fugitifs les plus importants. Vous voyez ici, il y a une croix rouge sur la photo de Kabouga, car il a été arrêté le 16 mai 2020.
You might have heard this man, Augustin Bizimana.
Vous avez aussi peut-être entendu qu'on a récemment confirmé la mort de cet homme-là, Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense. Mais comme vous voyez, il reste encore Proteus Piranha, haut gradé des anciennes forces gouvernementales. Il est toujours en fuite.
Government forces, he's now wanted fugitive. And we have this guy called Fulgence Keshema.
Et puis il y a celui-là, Fulgence Keshema, toujours en fuite. Aloïs Nimbati, toujours en fuite. Charles Sikubwabo, toujours en fuite également. Et en dessous, regardez, on voit qu'il y a une récompense pouvant atteindre les 5 millions de dollars pour quiconque donnera des informations menant à leur arrestation.
USD to whoever gives information that leads to the arrest of these wanted fugitives.
Ici, on se félicite donc de l'arrestation près de Paris de Félicien Kabouga, l'un des derniers gros poissons que le TPIR n'avait pas réussi à juger. Et on salue une coopération efficace avec le mécanisme résiduel pour les tribunaux internationaux et avec les autorités françaises.
En règle générale, nous coopérons à travers de l'échange d'informations ou l'accueil de commissions rogatoires avec des équipes qui viennent au Rwanda pour identifier des témoins. Car il ne faut pas oublier que si la justice internationale opère à Arusha ou ailleurs, le point de référence pour ce type d'affaires reste les lieux du crime. Et les lieux du crime sont au
Rwanda.
Reste que dans les tiroirs du procureur, les dossiers des génocidaires présumés vivant en France sont encore nombreux.
Yes, the France cases they are about 47.
Oui, en France, nous avons à peu près 47 cas, c'est-à-dire que nous avons émis 47 mandats d'arrêt internationaux et que sur ces 47 génocidaires présumés, la France en a jugé et condamné 3. Donc il en reste 44. La coopération avec la France est bonne car ils ont mis en place un pôle judiciaire spécifique chargé des crimes internationaux et nous travaillons très bien avec eux, même s'il y a encore du chemin à faire car 44, ce n'est pas un petit nombre.
Aujourd'hui, conclut John Bosco Siboyinhore, il faut surtout penser aux victimes qui ont attendu longtemps la justice. Beaucoup d'entre elles souhaiteraient voir Félicien Kabouga jugé au Rwanda. La principale association de rescapés, Ibuka, a ainsi récemment envoyé une pétition au mécanisme résiduel pour les tribunaux internationaux, l'organisme qui a pris le relais du TPIR, afin que Félicien Kabouga soit transféré dans le pays où il aurait commis ses crimes présumés.
Rwanda, sur les traces de Félicien Kabouga, un grand reportage de Laure Brolard, réalisation Pierre Chaffange.
Vous avez entre 15 et 35.